Merci Marine Le Génie, on vous retrouve à 9h pour un nouveau journal. Bonjour à toutes et à tous.
This is Bob Woodward of the Washington Post.
Bob est un bon journaliste, un type bien et un rédacteur compétent.
Nous avons quelques informations sur ce sujet par d'autres sources et bien sûr on veut faire des recoupements.
This is terrific stuff. Where did you get it?
Trouvez une autre source.
Ce type est bon. Il est aussi bon journaliste que tous ceux avec qui j'ai travaillé.
Le secret des sources.
Frédéric Barrère.
Bienvenue dans Le secret des sources et les coulisses de l'information. C'est le dernier épisode terrible qui montre combien la liberté d'informer est menacée en Turquie. Ankara, samedi dernier, le pire attentat de l'histoire du pays se produit lors d'une manifestation pacifique et pas ou peu d'images en Turquie. Peu de photos ou vidéos de l'attaque d'Ankara ont été diffusées. Le journal britannique The Independent explique que la télévision d'État turc a imposé une interdiction de diffusion des images après un ordre direct du Premier ministre turc Davutoğlu. Reporters sans frontières vient de publier un rapport dénonçant l'intensification de la censure en Turquie. La Turquie est un baril de poudre, nous dit RSF, et les attaques contre la liberté de la presse se multiplient. Quelle liberté pour l'information en Turquie? On en parle ce matin dans Le secret des sources avec nos invités. Emre Demir, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le correspondant à Paris du journal Zaman et rédacteur en chef de l'édition française du quotidien. Marc Semo, bonjour.
Bonjour.
Grand spécialiste de la Turquie, rédacteur en chef du service Monde de Libération. Et vous avez publié aux éditions du Cygne, La révolution du Bosphore. Éric Biegala, chef du service étranger de France Culture. Bonjour Éric.
Bonjour.
Ancien correspondant en Turquie et vous avez publié aux éditions de l'Aube. Faut-il intégrer la Turquie? Avec nous également, en duplex d'Istanbul, Jérôme Bastion, correspondant de France Culture et de RFI. Bonjour Jérôme.
Bonjour, bonjour à tous.
Et notre regard extérieur aujourd'hui, Jean-Marie Charon, bonjour.
Bonjour.
Sociologue et spécialiste des médias. Dans les coulisses de l'émission, Mathias Mégy, Vincent Abouchard avec aux manettes aujourd'hui, Élise Leu. Le clin d'œil de la semaine signé Yacine Bouzard. Et nous appellerons également Marc Crépin, notre correspondant à Moscou. Vos commentaires, vos réactions sont les bienvenus sur notre site franceculture.fr. N'hésitez pas à nous écrire, vous êtes chez vous sur France Culture et dans Le secret des sources.
La Turquie connaîtra-t-elle la vérité sur la double explosion qui a ensanglanté la ville d'Ankara? Aucune revendication pour le moment.
Au moins 97 personnes ont perdu la vie et des centaines sont gravement blessées.
Dans les rues d'Ankara, des milliers de militants pro-kurdes, mais aussi d'extrême gauche, opposants au président Erdogan, défilent au cri de gouvernement assassin.
D'après les médias turcs, la piste djihadiste serait privilégiée. Les journaux Hürriyet et Habertürk affirment même qu'il pourrait s'agir du frère aîné du kamikaze à l'origine de l'attentat de Suruç le 20 juillet dernier. Cette fois, l'opposition pointe du doigt le président Erdogan et son gouvernement, accusés d'avoir délibérément négligé la sécurité des manifestants.
Le secret des sources.
Voilà extrait de plusieurs reportages diffusés dans les journaux télévisés le week-end dernier, juste après l'attentat d'Ankara. Emre Demir, rédacteur en chef de l'édition française du journal Zaman, est-ce que vous avez pu, vous, publier des images de l'attentat d'Ankara?
Oui, comme nous sommes un journal français, on a pu publier. Et d'ailleurs, après les premières interdictions, la plupart des médias turcs n'ont pas respecté cette blackout médiatique. La deuxième décision qui vient d'un cours sous les ordres de monsieur le président Erdogan a été en fait un facteur important. Et aujourd'hui, dans la presse turque, surtout dans les chaînes de télé, on ne cite plus le nombre de kamikazes, on ne cite plus le nombre de la ville Adıyaman, la ville d'origine de ces kamikazes. Donc, des détails importants sur l'affaire, sur l'attentat. Ce qui, en fait, c'est devenu en fait une méthode systématique utilisée par le gouvernement turc pour étouffer toutes sortes de critiques.
Et qu'est-ce qui se passe-t-il si un média, si vous ne respectez pas les consignes du gouvernement?
En général, ce sont des intimidations.
Parce que là, les photos, malgré les ordres, judiciaire. Les photos ont quand même été diffusées.
Oui, parce que ce matin, Marc Sémo. Par exemple, le journal Jumhuriyet, hein, qui est le grand journal de la gauche, La République, publie non seulement des photos, des reportages sur les enquêtes, revient sur l'implantation de l'État islamique en Turquie, avec simplement le surtitre. On a essayé d'interdire, de nous interdire de publier ces informations. Et la plupart des journaux, comme des grandes télévisions d'information, de fait, en parlent. Alors effectivement, il y a la télévision d'État, mais sans vouloir être méchant, personne ne regarde la télévision d'État.
Emre Demir.
Enfin, la presse indépendante existe en Turquie. Zaman aussi a fait la une là-dessus.
Parce que Zaman a publié les images.
Exactement.
Aussi.
Zaman l'a publié
le
aussi.
Le journal turc de l'édition française.
À partir d'un moment où on accepte le prix, enfin l'acharnement judiciaire, le gouvernement, les arrestations, on est libre de publier chaque reportage qu'on veut.
Alors Marc Sémo, donc de Libération, vous connaissez parfaitement la Turquie et la zone kurde au sud-est du pays, le sud-est anatolien. Il faut sans doute noter aussi que nous sommes à 15 jours des prochaines élections législatives turques. Est-ce que selon vous, c'est en général une période où le pouvoir donne un tour de vis supplémentaire, une reprise en main de la presse?
Oui, mais en même temps, de fait, elle ne marche pas. C'est-à-dire, le président Recep Tayyip Erdogan hystérise les choses, notamment, par exemple, il y a quelques mois, quand Cumhuriyet, toujours, avait publié des photos montrant comment les services secrets turcs étaient impliqués dans un trafic d'armes pour la Syrie. Alors, est-ce que c'était l'État islamique? Est-ce que c'était les Turkmènes, comme le veut la version officielle? Donc, Erdogan avait tonné, disant que Cem Dündar faisait de la trahison, qu'il aurait à répondre de ses actes. Officiellement, il risquait même jusqu'à 25 ans de prison. De fait, la procédure n'a toujours pas été ouverte. Donc, si vous voulez, il faut faire une grande différence entre, à la fois, ces menaces du pouvoir, cette hystérie du pouvoir et la réalité. Alors la réalité est terrible, hein, parce que les chiffres, par exemple, donnés par Isil Karataş, qui est la juge turque à la Cour européenne des droits de l'homme, elle dit qu'il y a eu 236 procédures ouvertes pour insultes, notamment au président de la République. Il y a 105 procès qui ont été ouverts.
Donc l'année écoulée, vous parlez de l'année écoulée, Marc?
Ces dernières années.
Marc Sémo,
Et il y a 8 condamnations jusqu'ici. Par ailleurs, les associations de journalistes, alors là, sont plus ou moins d'accord sur le chiffre, ça varie un peu, mais c'est entre 22 et 26 journalistes en prison, dont 3 rédacteurs en chef. On notera que le chiffre est en nette baisse par rapport à il y a 2-3 ans, où on était à 70-80, parce que beaucoup des journalistes qui étaient inculpés, des journalistes kurdes notamment pour, entre guillemets, appartenance à organisations terroristes, ont été remis en liberté. Donc ce qu'il faut voir, c'est qu'à l'aune de la région, bon, c'est effectivement pas très brillant, mais c'est pas le pire. Effectivement, pour un pays candidat à l'Union européenne, c'est scandaleux.
Alors, Eric Begala de France Culture, vous rentrez tout juste de Turquie, du sud-est du pays, avant d'y retourner d'ailleurs pour les élections. Alors, votre magazine Turquie, la continuation de la politique par d'autres moyens, a été diffusé la semaine dernière à l'occasion du prix Bayeux des correspondants de guerre. Est-ce que vous avez eu à faire face à cette pression sur les journalistes et notamment les journalistes étrangers?
Non, on peut pas dire. C'est-à-dire que bon, j'ai eu parfois un petit peu l'impression de passer entre les mailles du filet, mais disons que les mailles étaient relativement lâches. Hein, on a pu circuler à peu près partout. Quand je dis à peu près partout, c'est bien entendu pas dans les endroits qui sont totalement fermés, puisqu'on a plusieurs villes du Kurdistan de Turquie. Bon, la dénomination officielle, on dit sud-est anatolien, mais on peut dire maintenant Kurdistan. C'est un mot. Il y a quelques années, c'était même pas licite de pouvoir dire le mot Kurdistan. Bref, des villes comme Şırnak, des villes comme Hakkari, des villes comme Nusaybin étaient totalement. Enfin, on pouvait pas y rentrer, ni pas plus nous, journalistes, que qui que ce soit d'autre. En fait, on est dans une situation un petit peu particulière. Dans toutes ces villes, en fait, les jeunes ont pris le contrôle des centres, vivent dans des espèces de camps retranchés, sont armés. La police, de temps en temps, monte des opérations pour essayer de les déloger. Ce sont pas des opérations de police, ce sont des opérations militaires, ce sont des opérations de guerre. On l'a vu à Cizre, où ils ont manifestement, ça on a pu le constater, tiré sur... J'allais dire sur tout ce qui bougeait, les rues devaient être désertes, mais ils ont tiré sur les maisons. Il y a eu une vingtaine de morts, 22 morts, je crois, dans les habitations. Et donc, modulo ces blocages, on peut travailler à peu près normalement. On a été arrêté une fois par les policiers, mais bon, une dizaine de minutes, on a eu droit à une fouille, mais ça n'a pas été plus loin.
Alors, on va rejoindre Jérôme Bastion, notre correspondant et également correspondant de RFI en Turquie. Jérôme, vous avez couvert pour nous l'attentat d'Ankara. Malheureusement, Jérôme, le bilan continue de s'alourdir.
Oui, le dernier bilan publié cet après-midi, officiel, est de 102 victimes. Donc, c'est un bilan extrêmement lourd, évidemment. et qui a choqué et qui continue de choquer le pays et surtout qui continue de rendre furieux cette opposition qui du coup a décidé d'annuler tous ces meetings de campagne. Il n'y aura plus de grands meetings, que ce soit du HDP, que ce soit du CHP.
Alors un mot sur l'enquête, Jérôme Bastion. Le président Erdogan parle d'une attaque dont les racines sont en Syrie.
Alors là, je ne veux pas vous parler.
Pardon ?
Je n'ai pas le droit de vous dire quoi que ce soit. Puisque l'enquête est frappée du sceau du secret par le procureur de la République, donc je ne peux rien vous dire.
C'est ça, la législation turque interdit de parler d'une enquête en cours, c'est ça Jérôme ?
Voilà, exactement. On ne sait rien, sauf ce que veut bien dire soit le président, soit le Premier ministre. Dans une drôle d'analyse d'ailleurs de la situation, et ils expliquent que l'attentat effectivement trouverait ses racines en Syrie, donc nous occidentaux on aurait tendance à penser qu'il s'agit tout de suite de l'État islamique, mais à leurs yeux il s'agit d'une sorte de collusion entre le PKK et l'État islamique. Ça paraît difficile à comprendre parce que les deux sont des ennemis, hein, des ennemis
jurés. Oui, ils se combattent.
Enfin voilà, et donc c'est la seule chose qu'on peut dire et c'est la seule chose qui circule légalement, on va dire, sur les médias d'État. Ce qui se passe, c'est ça en fait, c'est que, comme l'a dit M. Demirtas, le président du parti pro-kurde HDP, si on empêche les médias, et qui que ce soit d'ailleurs, de parler, c'est bien pour protéger l'État qui, à ses yeux, est impliqué dans cet attentat, parce que sinon, si c'était le PKK, l'État demanderait au contraire qu'on en fasse la publicité. Donc on ne peut entendre officiellement que la voix des autorités, Premier ministre ou Président de la République. En fait, on sait, et comme vous l'avez dit déjà, plusieurs journaux, la plupart des médias, surtout les médias écrits et d'opposition, bien entendu, enfreignent cette interdiction, l'affichent haut et fort en manchette et donnent les informations qu'ils ont parce que donc les médias ont décidé de passer outre et de parler quand même de cette histoire. Sinon, disent-ils, comme les précédents attentats, parce qu'il faut se rappeler que tous ces précédents attentats-là n'ont jamais été éclaircis, on ne sait même pas si une procédure a commencé, puisque de la même manière, systématiquement, dans les quelques heures qui suivent l'attentat, il est prononcé une interdiction de publier la moindre information sur ces affaires.
Jérôme Bastion, on entend souvent que le président Erdogan déteste la presse.
Il ne manque pas de le rappeler, effectivement, chaque fois qu'il prend la parole. Pour cet attentat-là, d'ailleurs, il s'est empressé. Il est resté quand même manifestement un petit peu choqué. Je ne sais pas si c'est le terme, mais en tout cas, il a passé quasiment 4 jours sans s'exprimer, ce qui est assez rare pour lui. Et la première fois qu'il a repris la parole, c'était pour notamment dénoncer le travail des journalistes qui s'empressent de parler de choses dont ils ne voudraient pas qu'on parle manifestement. Mais c'est vrai qu'il a des rapports extrêmement conflictuels avec la presse, que ce soit la presse locale ou que ce soit la presse étrangère, et il ne manque pas d'en faire la publicité, de dire tout le mal qu'il pense d'elle dans les grands meetings publics. Il désigne ses ennemis, entre guillemets, par leur nom, et bien entendu, très souvent aussi, il demande au procureur d'ouvrir des procédures contre les journalistes locaux surtout, beaucoup moins contre les journalistes étrangers quand même. Mais c'est vrai que c'est très très difficile aujourd'hui de travailler sous le régime ou dans le régime Erdogan.
Alors les grands médias turcs, Jérôme Bastion, un mot sur les grands médias turcs, ils sont très obéissants vis-à-vis du pouvoir. Le président Erdogan a placé ses hommes à la tête de ces médias. Je vois que Marc Semo fait modère de la main.
Effectivement, ces dernières années, le président et le parti AKP s'est constitué un ensemble de médias totalement à sa botte, qui aujourd'hui font d'une propagande éhontée à la fois pour le gouvernement, le projet ou les projets présidentiels et l'AKP, et à la fois s'en prend avec une vigueur incroyable aux autres médias ou aux étrangers ou à tous ceux qui ne sont pas tout à fait d'accord. Donc il y a une ambiance dans les médias entre ces deux pôles qui est effectivement absolument détestable, c'est-à-dire qu'en une d'un journal du côté présidentiel, on va dire, ou gouvernemental, on attaque, on promet la mort aux journalistes de CNN Turc ou de Hürriyet parce qu'il a eu l'indécence d'oser contester quelque chose.
Merci Jérôme Bastion, correspondant de RFI de France Culture en Turquie. Merci Jérôme et à bientôt sur l'antenne de Culture. Emre Demir et Marc Semo, je vous donne la parole. Emre Demir, Erdogan déteste la presse.
Et bien sûr, il déteste la presse, mais je voulais souligner quand même qu'on parle très souvent les journalistes arrêtés, mais alors que les journalistes détenus n'est pourtant que la partie émergée de l'iceberg, en fait. La presse turque, dans sa quasi-totalité, a été domestiquée par des méthodes plus sophistiquées que l'emprisonnement. Et l'autre moitié a déjà passé sous le contrôle des hommes d'affaires proches d'Erdogan. Donc, le contrôle total des médias est un pilier central du régime d'Erdogan. Ça, il faut le savoir. Il oblige non seulement relayer sa propagande, mais il oblige aussi, pousse aussi la presse d'opposition à s'autocensurer. Et l'autocensure est un problème très important, surtout dans la presse mainstream généraliste.
Marc Semo de Libération.
Oui, alors, je voudrais juste un peu relativiser, parce que c'est évident qu'il y a ce contrôle d'Erdogan sur les médias, qui a placé ses proches dans les médias, des groupes d'affaires financiers qui sont proches d'Erdogan contrôlent la plupart des médias, mais les deux, par exemple, principaux quotidiens du pays sont des quotidiens d'opposition. Le premier, c'est Zaman. Alors, Zaman, c'est le journal qui est lié à une confrérie islamiste qui a été longtemps l'allié d'Erdogan. Donc, pendant des années, Zaman a fait la propagande d'Erdogan contre l'armée, contre tout, etc. Et maintenant qu'ils sont en rupture avec Erdogan, c'est effectivement une cible du pouvoir. Mais Zaman reste le premier quotidien du pays. Le deuxième quotidien du pays, c'est le quotidien Hürriyet, qui est un quotidien laïque, qui appartient au groupe Doğan, hein, qui est un groupe très important, qui est en guerre ouverte contre le pouvoir. Alors, le pouvoir lance ses militants qui ont attaqué par deux fois le siège d'Hürriyet. On a tabassé des éditorialistes d'Hürriyet. On a essayé de casser le groupe avec des enquêtes pour fraude fiscale contre son patron. Mais on est quand même dans cette réalité que les deux principaux quotidiens du pays sont des quotidiens résistes et sont des quotidiens d'opposition. Et au niveau des télévisions aussi, il y a CNN Turc, qui est une excellente télévision, qui appartient au groupe Doğan, qui n'est absolument pas contrôlé par le pouvoir.
Justement, les télévisions, on va écouter un reportage diffusé sur iTélé. C'était mercredi dernier.
Sans préavis, nous avons été supprimés du satellite car nous sommes accusés de nuire à l'ordre constitutionnel. Les autorités ont donc simplement éliminé notre chaîne.
Traduction de ce média est jugée trop critique pour le gouvernement. Une censure d'autant plus difficile à accepter pour Abdullah, ancien partisan du parti politique du président, l'AKP.
Il y a 5 ou 6 ans, on avait l'impression que la Turquie se rapprochait de l'Europe, notre modèle en termes de démocratie et de liberté d'expression. On croyait en ce gouvernement, mais aujourd'hui, on nous compare à certains pays du Moyen-Orient.
Au total, 6 chaînes de télévision ont été interdites d'émettre, parmi elles, 7 chaînes de dessins animés, pourtant destinées aux enfants, mais accusées elles aussi de nuire à l'exécutif. À moins de 3 semaines des élections législatives, c'est dans ce climat de tension et de répression que se déroule la campagne électorale en Turquie.
Voilà un reportage de Philomène Rémy. 6 chaînes de télévision fermées, 1 chaîne de dessins animés. Nous ne sommes plus dans une démocratie. Il n'y a plus de débat démocratique, Emre Demir.
Il s'agit en fait des chaînes de télé de notre groupe de presse. Ouais. Et je pense que 3 semaines avant les élections, supprimer ces chaînes, qui fait partie quand même des chaînes principaux, en fait, c'est Samanyolu, c'est le 5e chaîne de la Turquie. Et puis, il y a 3 chaînes d'information qui, en fait, à part de CNN Turc, qui sont les seules chaînes d'information qui donnent encore la nouvelle de l'opposition, qui donnent une plateforme d'expression pour le député d'opposition, pour le parti d'opposition. Donc, enfin, le timing, en fait, était très critique et c'était une décision totalement illégale et que peut-être, après les élections, ces chaînes vont retourner à la grille, à la satellite, mais donc ce sera peut-être trop tard.
Alors, Marc Semo de Libération, ce regain de censure, c'est au nom de la lutte antiterroriste.
Voilà, il y a ce regain de censure qui est une réalité, mais je pense qu'il faut voir quelque chose. La Turquie est évidemment aujourd'hui beaucoup moins démocratique, notamment en matière de liberté de la presse, de liberté d'expression, qu'il y a 5 ans. Mais la Turquie, aujourd'hui, malgré tout, est plus démocratique qu'il y a 15-20 ans. Beaucoup de choses qui étaient impossibles à évoquer.
Oui.
Tout à l'heure, Éric Biegala parlait du Kurdistan. Par exemple, le mot Kurdistan, il y a 15-20 ans, c'était direct, procédure, l'apologie du terrorisme, atteinte à l'intégrité de la République, etc. Aujourd'hui, dans les débats publics...
Erdogan lui-même emploie le mot.
Alors, non, Erdogan non, mais il y a des choses dont on peut parler. Donc le Kurdistan, on peut parler même du génocide arménien. Mmh. En revanche, la grande différence, c'est qu'avant, on pouvait par exemple attaquer l'armée, c'était direct procès, tôle. Aujourd'hui, on peut attaquer l'armée, d'autant qu'Erdogan, à une époque, était en guerre ouverte contre l'armée. En revanche, on ne peut plus attaquer le pouvoir, on ne peut plus attaquer Erdogan. Et ça, même au début, à l'époque où Erdogan suscitait l'enthousiasme, y compris des Européens, où on parlait du grand réformateur, cette révolution du Bosphore, le mot de Cohn-Bendit. Bon, Erdogan avait, par exemple, ouvert une procédure contre un caricaturiste, de Cumhuriyet, déjà, qu'il avait montré comme un chat en berlificoté dans sa pelote de laine, pour insulte.
C'était la toute première.
C'était la toute première procédure.
Alors, ça va étonner tout le monde.
J'avais été voir son avocat, je lui ai dit, mais pourquoi il aime pas les chats? Le chat est un animal cher à Mahomet. Alors l'avocat était un peu gêné, etc. Ensuite, il a été débouté. Le juge lui a répondu, mais monsieur Erdogan, vous-même qui avez été en prison pour liberté d'opinion, comment osez-vous vouloir condamner un caricaturiste, etc. Donc, ce fait-là est aujourd'hui réel. C'est-à-dire, tout ce qui est atteinte à Erdogan, tout ce qui ne lui plaît pas, fait l'objet de procédures pour insulte ou au Premier ministre et maintenant au chef de l'État. Mais je pense qu'il faut relativiser et qu'il y a toute une jeunesse qui a grandi dans les années Erdogan, qui s'est habituée à la liberté, qui n'a plus peur. Et ce qui explique aussi la vigueur aujourd'hui de la mobilisation et des critiques contre Erdogan, à la différence de leurs parents qui avaient connu les coups d'État militaires, qui avaient plus intériorisé la peur.
Éric Bigala de France Culture, la presse turque a une particularité. Est-ce qu'elle est, selon vous, plus basée sur le commentaire que dans l'information, l'actualité à proprement parler?
Ça s'explique historiquement, mais c'est effectivement plus une presse de commentaires qu'une presse d'actualité, une presse d'information pure. On a des chroniques pratiquement dans les grands journaux comme Hürriyet ou Milliyet, etc. Pratiquement sur toutes les pages, vous avez une colonne entière qui fait toute la page. C'est une chronique, il n'y a pas un éditorialiste par journal, il y en a 30, parfois 40. Et donc tout le monde va donner un petit peu son avis. En revanche, des reportage, ça vous en lisez beaucoup moins que ce qu'on peut trouver, disons, dans la presse occidentale, européenne, etc. Donc c'est plus effectivement une presse de commentaires où on va avoir l'information qui est amenée par le pouvoir et la liberté de la presse, ça serait la liberté de commenter cette information, ça serait peut-être un petit peu ça. Un peu à la manière de ce qu'était la presse française il y a, disons, deux générations, il y a une cinquantaine d'années.
Le secret des sources, Frédéric Barrère.
Jean-Marie Charon, sociologue, spécialiste des médias. La liberté de la presse est effectivement malmenée en Turquie. Et puis il y a ce rapport de RSF dont nous avons parlé, qui pointe les attaques contre cette liberté de la presse. Et vous, Jean-Marie, vous vous interrogez sur la façon d'informer dans un régime autoritaire.
Oui, j'ai l'impression que informer sur la Turquie aujourd'hui, c'est informer sur une société qui est sous haute tension, chauffée à blanc peut-être par un pouvoir autoritaire, et s'est informé face à un État qui entend contrôler de plus en plus complètement l'information. Alors ce qui me frappe, c'est, à l'écoute des observateurs, dont vous faites partie, les uns et les autres, c'est cet accord qu'il y a sur le fait que depuis l'occupation du parc de Gezi en juin 2013, la situation des journalistes et des médias qui prétendent faire leur travail, en tout cas en tant que contre-pouvoir, pas ceux qui sont près du pouvoir, s'est sans cesse dégradée, devenant effectivement beaucoup plus difficile ou plus dangereuse. Et l'on pourrait dire que chacune des formes que prennent les atteintes à l'indépendance des journalistes, c'est un peu un pas de plus, un recul de plus de la Turquie vis-à-vis de la démocratie. Alors ces atteintes, bon, on en a parlé, je vais un peu reprendre, mais c'est vrai que moi ce qui m'a beaucoup frappé en tant qu'observateur extérieur, ce sont les pressions directes sur les journalistes, y compris physiques, certains sur leur lieu de travail, devant les locaux de leurs journaux ou nuitamment devant chez eux. Parfois sont des atteintes de la police elle-même, soit des manifestants qui sont très violents devant les journaux, voire des bandes de nervis qui s'en prennent à des personnes. Ce sont aussi des poursuites de journalistes et des médias devant les tribunaux avec des, pour être très concret, des menaces parfois d'emprisonnement très lourdes. Par exemple, une insulte au président de la République, je crois que c'est 4 ans et demi de prison. Et un simple tweet suffit parfois pour se retrouver devant un tribunal pour ces atteintes au président de la République, de la même manière qu'un tweet peut vous conduire à une condamnation pour propagande d'une organisation terroriste simplement parce que on vient de parler de questions ou qu'on a relayé peut-être des propos de l'opposition kurde. Et je vous rappelle que RSF, alors c'est vrai que c'était il y a quelques années, vous avez signalé les décalages dans le temps parfois, mais RSF parlait il y a quelques années de la Turquie comme de première prison au monde de journalistes. Alors, ces attaques, ce sont aussi les interdictions, on l'a évoqué, qui peuvent être prononcées par l'équivalent de notre CSA, qui s'appelle le Conseil supérieur de la télévision et de la radio. Très concrètement, parmi ces interdictions, il y a eu effectivement celles qui ont concerné les attentats de samedi dernier. Mais ce ne sont pas les seuls cas. Et puis, il y a aussi, ce qui m'a beaucoup surpris, parce qu'on a beaucoup parlé du rôle des réseaux sociaux pendant le printemps arabe, il y a eu aussi des initiatives et des fermetures décidées par les tribunaux à plusieurs reprises des réseaux sociaux, Facebook, Twitter, YouTube, pour là encore des questions d'apologie du terrorisme. Et puis, alors, est-ce que c'est une rumeur ou est-ce que c'est une réalité? Plusieurs journalistes m'ont dit que quelques heures après les attentats de samedi dernier, eh bien, les réseaux sociaux se sont ralentis et que on ne pouvait plus passer de photos et de vidéos.
Tous nos invités sont d'accord là, oui.
Ouais. C'était manifeste.
Parce qu'effectivement, c'était une manière donc de bloquer sans complètement l'officialiser le rôle de ces réseaux sociaux. Et puis, vous l'avez pas évoqué, mais pour moi, regard extérieur et travaillant sur le journalisme en France depuis fort longtemps, c'est aussi le fait que pour être journaliste, pour faire son travail de journaliste en Turquie, il faut une carte de presse et que cette carte de presse, elle n'est pas attribuée comme en France par une commission paritaire de professionnels, mais par une direction de l'information et des médias qui est directement liée au Premier ministre et qui ne se prive pas de retirer cette carte de presse à certains journalistes considérés comme trop proche de l'opposition. Mais en même temps, c'est vrai que, et ça vous l'avez signalé à l'instant, le paradoxe de la Turquie, c'est que c'est une démocratie. C'est une démocratie qui, encore avant-hier, rappelait qu'elle souhaitait rejoindre l'Union européenne. Je l'ai entendu hier matin sur les ondes de France Culture. Et une démocratie qui respecte ses échéances électorales et une démocratie qui est signataire de la Convention européenne des droits de l'homme et de son article 10, dont je vous rappelle que cette convention nous dit que le rôle du journaliste, c'est d'être le chien de garde de la démocratie. Au nom du principe de liberté du public à recevoir l'information sans laquelle il ne peut y avoir de démocratie.
Voilà, le journaliste chien de garde de la démocratie, Jean-Marie. Alors justement, quelle réflexion peut suggérer cette situation de l'information en Turquie?
Alors il me semble qu'il y a effectivement deux types de réflexions et qui dépassent d'ailleurs largement la question de la Turquie et qui nous renvoie aux questions de relations entre les médias et le pouvoir. La première réflexion, ça concerne le droit. Et elle devrait nous faire effectivement réfléchir tous dans beaucoup de démocraties. En fait, les poursuites, d'après ce que j'en ai compris, reposent sur deux grands types d'incriminations. La première, vous l'avez signalé à plusieurs reprises, c'est cette notion d'insulte au président de la République ou au chef de l'État. Je ne sais pas si c'est les bonnes traductions. Je trouve les deux versions selon les endroits où je peux lire. On peut se souvenir qu'à chaque fois que, notamment dans des affaires de corruption ou de dénonciation de corruption, on a invoqué cette notion d'insulte au président de la République. Et le rédacteur en chef de Today Zaman a été arrêté pour ce motif, je crois bien. Et je voudrais signaler, parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas toujours en tête, mais qu'on a longtemps, nous, eu aussi en France, cette notion d'offense au chef de l'État dans notre droit. Et ça a souvent été un prétexte pour beaucoup de dictatures de parlement de reprendre cette disposition dans leurs droits, et ce qui était bien commode pour eux pour bâillonner les journalistes et les médias. Et puis la seconde disposition du droit, évidemment, c'est celle que prennent les textes de lutte contre le terrorisme. Et là, on a vu aussi que ce genre de textes fleurissent un peu de partout, de par le monde. Et là, en Turquie, on voit bien que ces textes sur la lutte contre le terrorisme placent sous la menace, en fait, tout journaliste qui rencontre, traite des questions liées au PKK, ou parfois même simplement défendre de manière un peu trop forte les questions liées à la cause kurde. La deuxième réflexion, vous l'avez évoquée, moi elle m'a beaucoup frappé par rapport au contexte français, c'est que la Turquie se caractérise aussi par une situation dans laquelle lesquels les médias sont à la fois concentrés dans des groupes importants et des groupes qui dépendent souvent de la commande publique, ce qui nous rappelle un peu notre situation française. Voilà.
Jean-Marie Charon, merci beaucoup.
Hold on to me, don't let me go. Who cares what they see, who cares what they know. Your first name is free, last name is dumb. But you still believe in where we're from. Man's red flower, it's in every living thing. Cheetahs need to eat, run antelope. Your first name is King, last name is Dumb. 'Cause you still believe in everyone.
Freedom de Pharrell Williams, sélectionné pour vous par Vincent Abouchard. Freedom, sorti cet été en juillet. Jean-Marie Charon, vous vouliez rajouter quelque chose sur la liberté de la presse et la Turquie, son classement mondial?
Oui, dans le classement, sur le classement mondial pour la liberté de la presse, dans la dernière édition, la Turquie était au 154e rang des nations, c'est-à-dire extrêmement loin dans le classement.
Sur 180 rangs, sur 180 pays. Emre Demir ?
Oui, je voulais rebondir par rapport à cette comparaison entre le régime kémaliste de la Turquie et le régime d'Erdogan. C'est très intéressant parce que je travaille pour un journal quand même qui avait soutenu le gouvernement de la AKP pendant cette période réformiste et qu'on a été chassé avant par le régime kémaliste, par l'armée turque. Je peux dire que la pression sur Zaman ou sur le presse d'opposition est 10 fois plus pire que le régime kémaliste, que le régime militaire. Donc, je voulais dire ça.
Non, juste un point assez sérieux. Ouais, notre correspondant, Agit Duran, a fait 9 mois de prison pour avoir écrit que Öcalan, le leader du PKK, est le Garibaldi kurde. Même aujourd'hui, on donne le nom d'Öcalan, on parle d'Öcalan à la télévision. Les choses qui étaient celles des années 90.
Le traitement par rapport au journaliste kurde était toujours brutal et aujourd'hui, je pense que c'est toujours le cas. Donc, ça n'a pas changé.
Merci. On va à Strasbourg.
Racontez-moi en deux mots pourquoi vous êtes là aujourd'hui.
On est là parce que on aime, on adore notre président. Et...
Tayyip, c'est qui pour vous? Qu'est-ce qu'il représente?
Tayyip, c'est le père de la nation.
Vraiment? C'est le numéro un. Je croyais que c'était Atatürk qu'on apprend ça à l'école.
Ouais, mais ça change. C'est le père de la nation et il a fait beaucoup, beaucoup de choses pour notre pays au niveau économique, au niveau à tous les points dans le pays. Et voilà, on est là, on est à fond avec lui, on le soutient à fond. Vu ce qui se passe ces derniers temps dans notre pays, avec tous les actes terroristes faits par le PKK, donc on est là pour soutenir le gouvernement par rapport à ça, quoi.
Expliquez juste en deux mots pourquoi vous êtes là aujourd'hui.
C'est contre la terreur, c'est contre le PKK, quoi. C'est
on est venu pour Erdogan, pour le voir, mais pour soutenir en disant que nous aussi on est contre la terreur. Et que la terreur ne pourra pas pourrir notre Turquie parce qu'on ne donnera pas un tout petit bout de terre.
Voilà, extrait du début de votre magazine, Éric Biegala, diffusé la semaine dernière à Bayeux. On entend les partisans du président turc. Ce qui les unit, c'est le rejet, la détestation des Kurdes. En fait, quand le président Erdogan emploie le mot terroriste, il vise les Kurdes.
Alors, il vise le PKK, très clairement. Le mot terrorisme en Turquie, ne vise jamais, je sais pas quoi, l'État islamique. Quand on parle de terreur, c'est évidemment du PKK et de personne d'autre. Alors qu'il y a évidemment, il y a d'autres groupes, soit de l'extrême gauche combattante, issue des années 70, des islamistes aussi. Il y a eu un groupe qui pendant des années qui s'appelait le Hezbollah, rien à voir avec le Hezbollah libanais, mais qui était vraiment à la tête d'une véritable campagne de terreur avec des assassinats, alors par centaines de personnes. Mais quand dans le laïus politique, quand on parle de terreur, c'est le PKK. Et le meeting dans lequel on a enregistré ces gens, c'était un meeting de campagne, même si on avait pris quelques précautions pour ne pas que ça apparaisse, puisqu'effectivement Erdogan y arrivait comme président de la République, il n'est pas censé être en campagne, il y a une campagne en cours, mais ce sont des législatives. Donc son parti n'était pas véritablement présent.
Cela dit, ça peut arriver qu'un président soit en campagne.
Absolument, absolument. Et le thème de ce meeting, c'était « Tous unis contre la terreur ». Donc en fait, et tout tournait autour de ça. Et le problème était en fait d'assimiler le parti pro-kurde HDP, qui est donc d'opposition et qui est rentré au Parlement, avec les terroristes du PKK. Et ça marche, hein, c'est ce que disent les gens qui étaient venus là, qui sont des Turcs de France, d'Allemagne, de Belgique, des Turcs européens. Pour eux, ce HDP n'est que la vitrine légale du PKK, ce qui est... On va dire qu'il y a effectivement quelques solutions de continuité entre les militants armés.
Qui n'est pas que ça, mais qui l'ont partie.
Voilà, qui n'est pas que ça, mais qui l'est en partie. Hein. Il y a certains des députés qui ont été élus, je pense à un en particulier que j'ai rencontré, qui n'est autre que le neveu de l'un des fondateurs du PKK avec Abdullah Öcalan à la fin des années 70. Donc bon, il y a effectivement quelque chose, mais dire que tout ce qui est HDP, tout ce qui est parti pro-kurde, ce sont des terroristes, c'est quand même aller un petit peu loin, mais c'est le thème de campagne d'Erdogan là.
Alors justement, cette guerre en Syrie, quelles sont les répercussions pour le gouvernement turc par rapport au PKK? J'aimerais avoir votre avis, que le PKK gagne une légitimité internationale en combattant l'État islamique. A contrario, le gouvernement turc reste toujours un peu dans le flou. Dans le point cette semaine, on peut lire Erdogan, lui et Daesh, c'est pareil. Vous êtes d'accord, Marc Sémo?
Non, c'est absurde, mais il est évident que le pouvoir turc,
même si Ahmed Davutoğlu vient de commettre une très belle gaffe en disant la différence entre Daesh et nous, c'est, au lieu de dire 180 degrés, c'est à 360 degrés. Donc en gros, il n'y a pas de différence.
Voilà. Mais dans ce cas-là, révolution, ça veut dire on revient au point de départ. Voilà. Mais non, ce qui est vrai, c'est que le pouvoir turc a évidemment joué contre Assad, parce que l'objectif central, premier du pouvoir turc, c'est le renversement de Bachar el-Assad, a joué la carte des djihadistes, et une partie de ces djihadistes ensuite ont formé l'État islamique, et ça a été cela pendant des mois, longtemps, les ambiguïtés du pouvoir turc vis-à-vis donc de l'État islamique. Hein, il y a 800 km de frontière entre les deux pays. Effectivement, les volontaires, les armes passaient. Et aujourd'hui, il a été pris. Hein, c'est un effet boomerang. Il a joué à l'apprenti sorcier. Et d'une certaine façon, aujourd'hui, le pouvoir turc est piégé. Il y a des réseaux importants. On évalue à 3 à 5 000 les cellules, les gens de la mouvance de l'État islamique dans des cellules dormantes en Turquie même.
Emre Demir.
C'est vrai que la Turquie est devenue le Pakistan de la Syrie. En fait, il y a une pakistanisation en Turquie qui est très importante. On sait très bien qu'il y a des cellules de Daesh, non seulement à Diyarbakır, mais aussi dans d'autres villes et des métropoles.
Y compris à Istanbul
et Ankara, qui posaient un risque majeur pour la sécurité du pays.
Merci à tous d'avoir participé à ce débat. Quelle liberté pour l'information en Turquie. Avant de rejoindre Marc Crépin à Moscou, le clin d'œil.
Le secret des sources.
Aujourd'hui, nous fêtons une renaissance, celle du musée de l'Homme. Voilà 6 ans que le musée était fermé.
Continental a fermé en 2009. Les gens de chez Continental, ils ont accepté de baisser leur salaire, de baisser leur prime, de perdre un tiers de leur prime de vacances de fin d'année. Comme tous ces gens ont fait, ils ont accepté de perdre du salaire, ils ont accepté les conditions. Et c'est ce même mec-là à qui ils se sont retrouvés autour d'une table et qui leur a dit « Si vous faites des efforts, l'entreprise, elle est sauvée. » C'est le même mec qui est venu leur annoncer qu'ils allaient en foutre 2900 dehors.
6 ans pour rénover ce bâtiment. 6 ans aussi pour...
Il y a 500 mecs qui sont encore au chômage aujourd'hui. Il y a 200 mecs qui sont au RSA. Il y a à peu près 400 divorces, 5 suicides.
Quels sont les messages que nous voulons délivrer?
Par exemple, on a pété la sous-préfecture de Compiègne. Ça faisait 6 semaines qu'on réclamait des négociations. Aucune négociation n'était acceptée. On a pété la sous-préfecture de Compiègne. 3 heures après, on nous autorisait tripartite, tout ce qu'on voulait, on l'avait. Les agriculteurs, ils pètent, ils ont.
La renaissance du musée de l'Homme est à ce titre le plus beau symbole qui soit. Merci.
Voilà, aller-retour entre François Hollande lors de l'inauguration du Musée de l'Homme cette semaine et Xavier Mathieu, délégué CGT et ex-Conti. C'était en 2009. L'actualité à l'étranger. L'actualité à l'étranger en écho avec le thème de l'émission. On rejoint Marc Crépin, correspondant de France Culture et Radio France à Moscou. Bonjour Marc.
Bonjour, bonjour à tous.
Alors Marc Crépin, on parle souvent d'Erdogan comme d'un Poutine turc. Quelles sont les relations entre les deux présidents? Elles sont plutôt fraîches, semble-t-il.
Oui, les deux hommes sont en froid, c'est le moins qu'on puisse dire, sans remonter à la rivalité entre l'Empire ottoman et l'Empire russe autour de la Crimée, par exemple. Ils n'ont plus que des raisons de se méfier de l'un de l'autre, ils se surveillent, les points de divergence, vous savez, sont bien plus nombreux que les points d'accord, et je ne parle même pas du sort des Tatars, justement, après l'annexion de la Crimée. Prenez la dernière visite d'Erdogan à Moscou, le 23 septembre, il s'agissait d'inaugurer la mosquée, il y avait aussi le palestinien Abbas qui était là. Et donc, les deux présidents, Erdogan et Poutine, se sont fait la tête toute la journée et n'ont échangé que des banalités, alors qu'ils auraient dû évoquer la situation en Syrie, notamment. Pourquoi cet antagonisme? Grosso modo, il y a trois raisons à cela. D'abord, l'offensive russe en Syrie, bien entendu. Une semaine après l'inauguration de la mosquée, la Russie passait à l'attaque en Syrie, et la Turquie, on voit cela d'un très mauvais œil. Son objectif principal, on le sait, c'est de faire tomber le président syrien Bachar el-Assad, celui de la Russie, c'est de le sauver. Hier encore, c'était le ministre des Affaires étrangères turc qui déclarait que la Russie, en aidant Assad par ses bombardements, faisait une grosse erreur. On se souvient aussi des appareils russes qui ont fait des incursions dans le ciel turc, ou encore un drone qui vient d'être abattu. Il s'était soi-disant égaré au-dessus de la Turquie, c'était un drone russe. Et puis, on sait bien que l'armée de l'air russe ne bombarde pas que Daesh, elle détruit aussi le potentiel militaire de l'opposition, disons, modérée à Bachar al-Assad. Alors, il y a ensuite, deuxième point, des raisons économiques. Il y a encore un an ou deux, Turquie et Russie faisaient des affaires et puis tout s'est détérioré. Il y a tout un débat et un contentieux autour du fameux projet du gigantesque gazoduc Turkish Stream, qui doit alimenter non seulement la Turquie, mais toute l'Europe du Sud. Tout cela est au point mort, et les Russes sont évidemment assez mécontents. De toute façon, avec les problèmes de la crise économique, ils ne pourraient pas faire grand-chose actuellement. Et puis, il y a aussi, par exemple, la construction d'une centrale nucléaire, la première centrale nucléaire russe qui est lancée déjà par Rosatom, et qui doit se poursuivre, tout ça est en suspens, et les Russes sont mécontents. Et puis, troisièmement, je dirais qu'il y a des raisons diplomatiques et d'influence que vous connaissez tous, que vous avez évoquées au cours de cette émission. Eh bien, la Turquie supporte mal le rapprochement insistant entre la Russie et l'Iran. Téhéran et Ankara, on le sait, hein, souhaitent exercer la même influence dans cette région, Moyen-Orient, Asie mineure, sans compter que les sunnites n'apprécient pas du tout l'État chiite.
Alors, l'autre thème dans la presse chez vous cette semaine, Marc Crépin, c'est bien sûr la Syrie, mais avec les opérations militaires russes.
Oui, actuellement, vous savez, c'est l'ouverture de tous les journaux, télévisés, radio, c'est la une de toute la presse et des sites d'information. La semaine dernière, on a même vu dans ce... je dirais, dévouement journalistique d'État. On a même vu une journaliste météo de la chaîne Russia 27 Cheterier, Russia 24, présenter un bulletin de prévision sur le temps en Syrie et surtout sur le ciel bien dégagé dans la région pour permettre des frappes aériennes extrêmement efficaces. Mais de toute façon, depuis le 30 septembre, c'est par exemple Sputnik, qui est un média quasiment officiel d'information du Kremlin. Depuis le 30 septembre, Sputnik expliquait ce matin qu'il y a eu 700 raids environ en Syrie, dans le ciel syrien, contre 456 sites, tous sont considérés comme des sites terroristes parce que tous sont des ennemis du pouvoir à Damas, on l'a déjà évoqué, des ennemis de Bachar el-Assad. Et puis, il y a aussi cette menace, bien sûr, cette menace des islamistes qui avait été évoquée notamment par le chef de Al-Qaïda en Syrie, Al-Nosra, cette menace de lancer le djihad dans le Caucase russe. Abou Mohamed Al-Jolani avait lancé cette menace la semaine dernière en appelant les musulmans du Caucase, il y a 20 millions de musulmans en Russie, à mener ce djihad, bien sûr. Ça entraîne une vigilance accrue des services russes et de l'armée, mais il faut dire que ça fait très très longtemps que l'armée et la police sont habituées à mener des combats parfois discrets en Ingouchie, dans le Daghestan et même encore et toujours en Tchétchénie.
Marc Crépin, correspondant de France Culture à Moscou. Merci Marc et merci à tous. L'émission se termine. J'ai eu le plaisir de recevoir ce matin Emre Demi, rédacteur en chef de l'édition française du journal Zaman. Marc Seymour, rédacteur en chef du service Monde à Libération et vous avez publié La Révolution du Bosphore aux éditions du Cygne. Éric Biegala, chef du service étranger de France Culture, ancien correspondant en Turquie, auteur de Faut-il intégrer la Turquie aux éditions de l'Aube. Merci également à Jérôme Bastion, correspondant de RFI et de France Culture en Turquie, qui était en duplex avec nous, tout comme Marc Crépin, que l'on vient d'entendre de Moscou, notre regard extérieur, qui nous a accompagnés aujourd'hui, Jean-Marie Charon, sociologue, spécialiste des médias, dans les coulisses de l'émission. Mathias Mégy, Vincent Abouchard pour la préparation, la réalisation et le site franceculture.fr avec aux manettes aujourd'hui Élise Le. Je n'oublie pas le clin d'œil de la semaine, signé Yacine Bouzard. À noter, sur France Culture, on passe le week-end à Chicago. Nos émissions vous amènent sur les bords du Michigan, dans la ville d'Al Capone et de Barack Obama. Week-end Chicago sur Culture. Dans un instant, le journal de Marine Le Génie, suivi de répliques. Peut-on encore aimer le football ? Alain Finkielkraut reçoit Grégory Schneider et Jean-Philippe Toussaint. C'était le secret des sources sur France Culture, à retrouver sur franceculture.fr. Rembobinage, le journal, réplique, bonne journée sur Culture.
Je voudrais juste un peu relativiser, parce que c'est évident qu'il y a ce contrôle d'Erdogan sur les médias, qui a placé ses proches dans les médias, des groupes d'affaires financiers qui sont proches d'Erdogan contrôlent la plupart des médias, mais les deux, par exemple, principaux quotidiens du pays sont des quotidiens d'opposition.
C'est vrai que c'est très très difficile aujourd'hui de travailler sous le régime ou dans le régime Erdogan.
C'est plus une presse de commentaires qu'une presse d'actualité, une presse d'information pure. Donc il n'y a pas un éditorialiste par journal, il y en a 30, parfois 40. Et donc tout le monde va donner un petit peu son avis. En revanche, des reportages, ça vous en lisez beaucoup moins que ce qu'on peut trouver, disons, dans la presse occidentale, européenne.